Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Du 17 au 19 mars, j'étais à Tunis pour les Assises internationales du journalisme. Pendant 3 jours, 700 personnes, pour la plupart des journalistes venus d'une trentaine de pays, ont discuté de pratiques éditoriales, de modèles économiques, mais aussi des menaces qui pèsent sur le journalisme. C'est la deuxième fois que cet événement se tenait dans la capitale tunisienne et on peut le dire, c'était osé de la part de l'association Journalisme et Citoyenneté de maintenir ces rencontres dans ce pays, vu le contexte. Nous sommes 11 ans après la révolution qui a vu le départ de Ben Ali. Et depuis juillet 2021, le Parlement tunisien et d'autres institutions sont suspendus. Le président Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs et gouverne par décret. Certaines libertés reculent, comme la liberté de la presse. Pour preuve, vendredi 18 mars, à Kairouan, à 150 km au sud de Tunis, un correspondant de la radio tunisienne privée Mosaïque FM a été arrêté au nom d'une loi antiterroriste. Il avait publié sur le site de la station un article sur le démantèlement d'une présumée cellule terroriste et l'arrestation de ses membres. Khalifa Ghesmi, interrogé pendant plusieurs heures par la police, a refusé de dévoiler ses sources. Avant même cette arrestation, en ouverture des assises à la Cité de la Culture de Tunis, la vice-présidente du SNJT, le syndicat des journalistes tunisiens, Amira Mohamed, avait tenu un discours alarmiste et combatif sur les menaces qui pèsent sur le journalisme en Tunisie. Je vous propose d'en écouter un extrait traduit en simultané durant l'événement.
Nous allons faire face au président grâce aux journalistes libres, grâce au soutien de la société civile et grâce à ceux qui croient au côté sacré de la liberté de la presse. Vous pouvez vous dire, tout est morose en Tunisie, il n'y a pas aucun point de lumière. Il y a un espoir, l'espoir existe, il y a des journalistes qui croient au journalisme de qualité, à la liberté d'expression, qui croient que le journalisme doit être indépendant, que le pluralisme est un choix irréversible dans le domaine de la liberté d'expression et la liberté d'information. Merci beaucoup et bienvenue encore une fois en Tunisie.
Amira Mohamed, vice-présidente du SNJT, le syndicat des journalistes tunisiens. Ce discours et de nombreuses tables rondes qui se sont tenues à Tunis sont visionnables sur la chaîne YouTube des Assises internationales du journalisme.
Merci à vous d'être présents.
Durant ces assises, il y avait un focus sur le Liban, auquel participait Caroline Hayek, grand reporter au quotidien francophone libanais L'Orient le Jour. Vous entendrez tout à l'heure cette journaliste passionnée, prix Albert Londres 2021, nous parler de son média dans un pays en crise. Mais tout d'abord, je vous propose d'écouter la rédactrice en chef Tunisie de Brut. Depuis fin 2016, ce média vidéo né en France fait des audiences folles sur les réseaux sociaux. Il existe maintenant dans plusieurs langues et continue de s'étendre dans le monde, notamment en Tunisie donc.
RFI.
J'ai voulu en savoir un peu plus en tendant mon micro à cette journaliste franco-tunisienne dans le grand et bruyant hall de la Cité de la Culture de Tunis.
Donc moi c'est Cyrine Attia, je suis rédactrice en chef de Brut Tunisie et je coordonne aussi l'Afrique du Nord. Donc il faut savoir que Brut s'est lancé dans 5 pays africains, donc la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte il y a 2 mois, qui est en langue arabe du coup pour l'Égypte.
Brut c'est un média vidéo qui a investi les réseaux sociaux il y a plusieurs années maintenant. C'est une réussite d'audience dans de nombreux pays à travers le monde. Quelle est la spécificité de l'approche éditoriale de Brut ici en Tunisie?
Déjà, Brut, dès le départ, quand ils ont décidé de se lancer en Afrique, ils ont voulu avoir une approche différente qu'ont eu des médias français qui ont tenté l'expérience africaine, c'est-à-dire d'avoir une approche par pays. Parce que quand Brut a décidé d'aller à l'international, que ce soit aux États-Unis, au Mexique, en Espagne, ça a toujours été par pays. Et donc, ils ont voulu garder ça et non pas faire Brut Maghreb ou Brut Afrique. Donc, je pense que c'est aussi une spécificité parce que ça nous permet de faire des sujets qui sont très locaux, qui concernent spécifiquement les pays dont on parle, et on se rend compte aussi à travers cette expérience-là que oui, quand on fait des sujets sur Brut Tunisie, les Tunisiens sont en effet beaucoup plus intéressés par des sujets qui vont parler des Tunisiens, et pareil pour les autres pages. Je pense que ce qui fait la singularité de Brut, c'est un peu ce qui fait aussi la singularité de Brut en France, c'est aujourd'hui que ça permet de s'intéresser à des personnes auxquels d'autres médias ne sont jamais intéressés peut-être, en tout cas pas de cette manière-là. Par exemple, nous on fait beaucoup de reportages, on essaye, même si on va faire des portraits de personnes, de pas aller vers du facecam, de les suivre plus dans leur quotidien, d'essayer de vraiment rendre compte en fait de ce qu'ils font. Et ça, on nous l'a fait remarquer et j'ai l'impression que ça change beaucoup les choses dans le paysage médiatique tunisien.
Donc c'est du portrait, c'est du témoignage, c'est des choses vues et plutôt dans une approche un peu sociale, sociétale.
Oui, beaucoup de sociétale. Donc on a fait pas mal de portraits, du témoignage. Pour le témoignage, on reste quand même sur des thématiques brutes. Par exemple, on a eu le témoignage qui a donné lieu au MeToo tunisien. Et on a réussi à avoir son témoignage à visage découvert pour la première fois, mais aussi des portraits. Par exemple, on a suivi un collecteur de déchets plastiques dans son quotidien en Tunisie. C'est un métier qui est très précaire, qui est illégal et qui pourtant, c'est 2/3 du recyclage en Tunisie. Voilà.
On voit ici dans les rues, même à Tunis. Hein.
Exactement. Du coup, ça permet de mettre en lumière des choses qui existent. En fait, en tant que Tunisienne, voilà, on a toujours su que ça existait, mais on ne s'est jamais vraiment intéressé au quotidien ou en tout cas de près. Et du coup, ça permet d'avoir cette approche-là plus en immersion, quoi.
Vous êtes franco-tunisienne, oui. Vous travaillez entre Paris et Tunis, oui. Et il y a également ici des journalistes qui travaillent pour vous et qui vous proposent des sujets. Comment est-ce que vous fonctionnez éditorialement? Vous faites des réunions de rédaction à distance? Comment ça se passe?
Oui, on fait alors des réunions de rédaction à distance. Donc moi, j'ai toujours vécu entre la Tunisie et la France. Ma famille est encore ici. J'ai vécu mes 18 premières années en Tunisie. Je viens très souvent donc pour Brut. Les personnes avec qui je travaille, je suis en lien constant avec elles, c'est-à-dire tous les jours. Et on échange, et le fait que je vienne aussi souvent, ça me permet d'aussi mieux cerner ce qui peut marcher ou ce qui ne marche pas. Je fais aussi confiance aux journalistes avec lesquels je travaille. Et pour l'instant, en tout cas, ça se passe plutôt bien. Donc j'ai l'impression que c'est un fonctionnement qui tient. Après, il faut savoir que c'est le même fonctionnement qui existe pour d'autres verticales de Brut à l'international. Il fallait garder aussi une cohésion et pas perdre l'identité et l'ADN de Brut qui a fait le succès de Brut en France. Et comme je l'ai expliqué, le succès de Brut en France, en fait, il n'est pas uniquement en France, il est aussi à l'international, parce que bien avant que Brut aille dans d'autres pays, il y avait la moitié de leurs vidéos qui étaient vues à l'international dans plus de 100 pays, beaucoup au Maghreb notamment. Donc en fait, cette recette, elle fonctionnait, et l'idée dans le fait de garder des bureaux à Paris, c'est aussi de garder cette cohésion et de ne pas perdre ce qui fait Brut, même s'il y a toujours bien sûr des spécificités locales pour chaque pays.
Le savoir-faire de Brut fait que ses contenus vidéo marchent très bien sur les plateformes. Ici, on est en Tunisie, on est dans un pays où il y a les 3/4 de la population qui est sur Facebook. C'est encore pour vous un levier fondamental ?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, les jeunes, les conversations qu'ils sont en train d'avoir sur les thématiques justement de Brut, que ce soit l'écologie, le féminisme, les luttes pour les minorités, en fait, elles se passent sur les réseaux sociaux. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Et je pense aussi que même les médias tunisiens vont de plus en plus vers ça. Donc Brut, en France, c'était inédit en 2016. Nous, on arrive en Tunisie aujourd'hui, mais il y a déjà des concurrents tunisiens qui sont établis et qui sont très populaires. Faza, justement, c'est un média tunisien qui est inspiré de Brut, qui aussi fait des vidéos de décryptage. C'est plus d'un million d'abonnés qu'ils ont sur les réseaux. Vous en parlez en Tunisie autour de vous, tout le monde connaît. Donc c'est la preuve que ce type de médias fonctionne aussi en Tunisie. Je prends aussi l'exemple du Maroc. Jaoujab, ça a connu aussi un grand succès. Donc si, je pense sincèrement que ce type de médias peut réussir dans les pays du Maghreb aussi.
Pour développer Brut ici en Tunisie, évidemment, il faut compter sur Facebook, mais j'imagine qu'il faut aussi s'intéresser aux autres plateformes de type TikTok.
Oui, bien sûr, je pense que c'est à terme, c'est ce qu'on aimerait faire. Après, c'est un développement qui prend du temps. On est une équipe, on a lancé 5 pages, donc c'est une équipe qui se construit avec le temps. Instagram, c'est aussi venu après, mais on voit justement les bienfaits de s'être aussi lancé sur Instagram, parce que ça nous permet de toucher une audience qui est encore plus jeune. Donc c'est 65% à peu près d'audience de moins de 35 ans sur Facebook, et c'est encore plus, c'est 90% sur Instagram. C'est une communauté qui est assez différente, et on le voit dans les commentaires, dans la manière dont les gens réagissent à certains sujets. Et du coup, on se dit bien sûr que là, Instagram, ça a été la deuxième étape, et TikTok, ça en sera une troisième, c'est sûr.
Pour essayer de toucher ici un maximum de public en Tunisie, il y a une question fondamentale aussi, c'est la langue. Et ce n'est plus forcément le français qu'il faut employer. Donc j'imagine que vous avez une réflexion là-dessus. Je sais que Brut lance des déclinaisons en langue arabe, mais pas forcément en arabe littéral, mais plutôt aussi en dialectal.
Alors, par exemple, pour Brut Tunisie, toutes les vidéos qu'on fait les personnes parlent en dialecte tunisien. C'est-à-dire que moi, je parle couramment le dialecte tunisien. Tous les interviewés, les journalistes parlent couramment le dialecte tunisien. Il n'est pas du tout question d'imposer le français parce que Brut a été fondé en France. Par contre, le sous-titrage se fait en français, ce qui aujourd'hui peut aussi paraître pratique. Par exemple, Faza, qui est un média local, il sous-titre en dialecte et en français. Mais nous, dans notre manière de nous exprimer, on est différent du public français, c'est-à-dire qu'on va mélanger plusieurs langues. Pour sous-titrer, ça implique aussi d'utiliser plusieurs langues. Donc en fait, pour l'instant, on a fait le choix du français, mais parce que ce serait difficile à sous-titrer de toute façon exclusivement dans une langue ou dans l'autre, parce qu'il y a un mélange des langues et que la manière de parler est différente. Aussi, le fait de sous-titrer en français, même si les personnes parlent en dialecte ou mélangent des langues à l'oral quand on met du son, ça permet en fait de capter des diasporas qui parlent pas forcément tunisien mais qui restent quand même profondément connectés à la Tunisie, qui se sentent concernés, et aussi des étrangers qui vivent en Tunisie, en tout cas des personnes qui s'intéressent au Maghreb. Et on le voit dans les commentaires, en fait, parfois qu'on ne sous-titre pas les vidéos en français, on nous demande des traductions et on prouve que c'est aussi important de maintenir ce lien entre les diasporas et leur pays.
Cyrine Attia, vous êtes la rédactrice en chef Tunisie de Brut. Ici, aux Assises internationales du journalisme de Tunis, vous avez participé à un atelier intitulé « Les journalistes, acteurs de l'éducation populaire ». Ici, en Tunisie, les médias ont sans doute un rôle particulier. La révolution s'est entamée en 2011 avec le départ de Zine El Abidine Ben Ali. Elle est encore en train de se poursuivre. Quel rôle et quelle place prend Brut dans cet écosystème-là ?
Je pense que déjà, n'importe quel média aujourd'hui qui existe en Tunisie, on est là aussi pour assurer une diversité du paysage médiatique, une diversité avec laquelle moi j'ai pas grandi par exemple. J'ai vécu dans un désert médiatique pendant les 16 premières années de ma vie, et je pense que ça nous a tous fait un bien fou de voir des voix différentes s'élever, de voir des médias avec lesquels on pourrait être d'accord, pas d'accord, mais ne serait-ce que ça en fait, juste le fait d'exister, je pense que déjà c'est un rôle qu'on a à jouer. Je pense que c'est aussi justement le fait d'apporter un regard qui soit beaucoup plus sociétal sur ce qui se passe en Tunisie, pas forcément beaucoup, la radio se concentre beaucoup sur la politique. Brut permet de se concentrer sur d'autres sujets qui je pense aujourd'hui sont primordiaux, parce que la crise elle est politique mais elle est aussi sociale, elle est aussi économique, et ça permet de rendre compte du quotidien des gens, ça permet aussi de faire avancer sur des sujets qui même si certains pensent par exemple, qui sont extérieurs au Maghreb, moi je ne crois pas du tout. Je pense vraiment que dans les revendications de plusieurs personnes de la société civile, on a pu le voir en janvier dernier au moment des manifestations, le féminisme, l'écologie, la lutte contre les discriminations envers les minorités, c'est des sujets qui intéressent la jeunesse tunisienne, et c'est des sujets qu'on doit aussi porter et qu'on porte au sein de Brut.
Un journalisme aussi donc de conviction.
Brut s'est jamais caché de vouloir faire du journalisme d'impact. Après, voilà, en fait, on a des valeurs sans être d'un bord ou d'un autre politique, mais il y a certaines valeurs auxquelles on est attaché, oui.
Merci beaucoup, Cyrine Attia.
De rien, merci beaucoup.
Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef Tunisie de Brut, et je vous dis à bientôt dans l'atelier des médias.
Merci beaucoup, à bientôt.
Travaillé sur l'enquête Egypt Papers, ou en français les mémos de la terreur, ou avec le site d'investigation Disclose, où on révélait une opération militaire secrète de la France en Égypte qui aide l'armée égyptienne à tuer, exécuter des civils dans le désert égyptien à la frontière avec la Libye. Révéler des informations militaires en Égypte, c'est puni de 5 ans d'emprisonnement.
Caroline Hayek, je suis journaliste franco-libanaise à Beyrouth, à L'Orient le Jour.
Bonjour Caroline Hayek.
Bonjour.
En 2021, vous avez eu le prix Albert Londres pour une série de reportages sur le Beyrouth d'après l'explosion ou la double explosion du 4 août 2020 sur le port de Beyrouth. Le prix Albert Londres, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un prestigieux prix qui est dédié aux grands reportages francophones. Vous avez grandi à Beyrouth. Est-ce que vous pourriez d'abord commencer par nous parler de la situation des médias et du journalisme actuellement au Liban, qui, on le sait, connaît une crise importante ?
La situation est assez mauvaise dans tous les secteurs et particulièrement dans celui des médias. Il y a des journaux, notamment anglophones, qui ont dû fermer très récemment. Après, pour parler de la situation de L'Orient Le Jour en particulier, nous avons la chance d'être un journal indépendant. Nous ne dépendons pas d'argent provenant de pays étrangers ou de partis politiques libanais. Donc c'est ce qui nous assure cette indépendance-là.
La structure économique de L'Orient Le Jour fait que L'Orient Le Jour est financé par des grands donateurs.
Voilà, ce sont des actionnaires que j'appelle très souvent des mécènes qui ont... L'Orient Le Jour n'est pas... Ce ne sont pas des manias de la presse, donc leur argent dépend de leurs entreprises qui se trouvent à l'étranger, donc ils ne sont pas impactés. Alors chaque année, malheureusement, ils ne font pas d'argent avec ce journal, mais ils veulent absolument le laisser dans ce paysage médiatique parce qu'on va bientôt fêter nos 100 ans en 2024 et on est quand même un symbole et des garants de la francophonie au Liban et dans la région.
Justement, en quoi c'est important de s'exprimer en français sur cette région ?
C'est très important parce que c'est ce que L'Orient Le Jour fait depuis, comme je l'ai dit, bientôt 100 ans. Et parce que les Libanais, la majorité sont à l'étranger, en Canada, en Afrique, en Europe, et qui sont francophones, ont besoin de ce lien vers le pays. Parfois, ils ont oublié leur langue maternelle, l'arabe. Donc, nous, on reste leur point d'ancrage pour avoir toutes les informations sur ce qui se passe en ce moment, la crise politique, la crise économique et les enjeux des élections à venir.
Et ça véhicule aussi un certain nombre de valeurs particulières et qui font vraiment sens dans un pays multiculturel et avec de multiples religions comme le Liban.
Tout à fait. La laïcité, l'indépendance, la liberté d'expression, c'est des valeurs que nous partageons. Et les journalistes qui travaillent le jour le savent très bien et on a une façon de travailler qui est assez différente des journaux libanais qui sont souvent très influencés par les gens qui le dirigent. La plupart des journalistes travaillant pour les médias arabes n'ont pas les mains libres comme nous l'avons. Moi, je n'ai jamais eu affaire à quiconque au sein de la rédaction ou la direction qui serait venu m'interdire de d'écrire sur un tel sujet ou au contraire de ne pas écrire sur un sujet en particulier.
Je le disais, vous êtes grand reporter et il y a aussi à L'Orient Le Jour cette culture du grand reportage qui n'est pas commune dans les médias libanais.
Oui, qui n'était pas commune non plus au sein de la rédaction de L'Orient Le Jour, mais on a vraiment opéré une transformation. On a fait une sorte de lifting à ce journal. Il y avait beaucoup de journalistes assez plutôt idéologues. Et là, on a essayé de se concentrer sur du journalisme pur, avec les faits, rien que les faits. Et le reportage n'avait pas beaucoup sa place parce que c'était considéré comme un moyen d'expression un peu mineur. Le lecteur de L'Orient Le Jour, les Libanais en général, aime beaucoup les éclairages, les interviews de politiciens, les grandes analyses sur la géopolitique de la région. Et il ne s'intéressait pas vraiment au quotidien du Liban et racontait, aller au plus près des personnes qui vivent en ce moment particulièrement tous les traumas. Donc ça c'est quelque chose de nouveau et moi j'aime beaucoup faire ça.
Vous êtes tombé dans le journalisme un peu par hasard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi ?
Complètement par hasard. Je n'ai pas fait d'études de journalisme. J'ai commencé par faire du droit, puis des études de lettres et du théâtre finalement. Dans l'idée peut-être de travailler au sein d'un théâtre, pas sur scène, hein. Je précise. Et quand je suis rentrée au Liban fin 2010, j'ai enchaîné des petits jobs et à un moment donné, je me suis dit bon, stop, moi ce que j'aime c'est l'écriture, donc il fallait absolument que je m'y remette. Et j'ai commencé à piger pour des magazines, notamment culturels, à Beyrouth. Puis j'ai intégré la rédaction de L'Orient Le Jour, ils m'ont fait confiance et voilà, c'est bientôt 7 ans.
Et à L'Orient Le Jour, vous avez commencé notamment à travailler à la rédaction internationale et il y a eu évidemment la révolution, le conflit en Syrie que vous avez couvert, vous, depuis Beyrouth.
Oui, j'ai couvert depuis Beyrouth. Je me suis tout de suite intéressée à ce qui se passait dans le pays voisin que je connaissais, que j'y allais souvent, vu que c'est vraiment à quelques heures de notre capitale. Par contre, la rédaction de L'Orient Le Jour, la direction, ne nous permettait pas de nous y rendre parce que c'était vraiment très dangereux par rapport à notre ligne éditoriale vis-à-vis du régime de Bachar el-Assad et aussi parce que nous n'avions pas les moyens financiers pour y aller avec toutes les garanties, les assurances nécessaires. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un réseau de citoyens, de personnes en Syrie et au Liban. Et c'est essentiellement en leur donnant la parole que j'ai pu traiter, couvrir le conflit pour un peu humaniser cette guerre syrienne et aussi éveiller un petit peu l'esprit du lecteur libanais qui avait cette image figée du Syrien qui est soit terroriste, soit réfugié au Liban et qui vient manger le pain des Libanais. Et ça, cette image, je voulais absolument la casser, les humaniser et raconter non, c'est des gens comme nous qui ont des histoires drôles à raconter, qui ont une vie passionnante, qui ont beaucoup souffert et qui se retrouvent au Liban dans des conditions terribles.
Et le 4 août 2020, quand il y a eu cette fameuse explosion sur le port de Beyrouth, eh bien, il y a eu aussi des dizaines de Syriens réfugiés au Liban qui sont morts, des centaines d'autres qui ont été blessés. Et ça, c'est aussi ce que vous avez voulu raconter dans les colonnes et sur le site de L'Orient le Jour.
Oui, c'était le premier sujet qui faisait sens à mes yeux. Moi, je n'ai pas vécu l'explosion, j'étais en France à ce moment-là. Et quand je suis rentrée, j'ai vu qu'il y avait 40 Syriens, réfugiés syriens qui étaient morts lors des explosions. Et personne n'en parlait malheureusement, on voyait leur nom défiler dans la liste et des fois on ne voyait même pas leur nom défiler dans la liste du gouvernement officiel. Donc je suis allée je suis partie à leur recherche et je voulais, ils étaient très étonnés que j'allais leur parler. Ce qui m'intéressait, c'est de vraiment raconter tout leur parcours, les conditions de leur fuite vers ce pays, les conditions de vie au Liban, comment ils ont élevé leur famille, comment ils ont réussi à travailler. Et malheureusement, c'était la goutte d'eau, cette explosion qui les a touchés et qui ont fracassé tous leurs rêves.
Vous avez travaillé sur ce sujet-là pendant des semaines, des mois même, l'idée de travailler sur le temps long.
Oui, bien sûr. J'ai essayé de suivre les personnes au fil des mois et je suis allée à la rencontre aussi des Libanais qui ont été particulièrement marqués, blessés dans leur chair ou qui ont tout perdu, leur habitation et toute leur vie en fait. Et j'ai aussi voulu raconter cette ville plusieurs mois après, quelle image avait cette ville à mes yeux, cette ville dans laquelle j'ai grandi, que je connais, je ne vais pas dire par cœur, mais presque. Je voulais vraiment prendre le pouls des habitants, voir comment est-ce qu'ils se remettaient de ces traumatismes-là. Et voilà, quand j'ai raconté cette promenade en déliquescence dans Beyrouth, ce qui m'a frappée, c'était la colère des gens, le désespoir. Les Libanais sont humiliés, ils sont à bout, et ça, je voulais absolument le partager.
Pour L'Orient le Jour, ce prix Albert Londres que vous avez remporté, on a l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire qui permet aussi au titre d'entrer dans une nouvelle ère. Est-ce que c'est un petit peu comme ça aussi que ça a été ressenti par vos collègues ?
Complètement, complètement. Quand je leur ai annoncé quelques jours avant la remise du prix j'étais la lauréate, c'était des effusions de joie. J'ai entendu au téléphone tout le monde hurler. C'était très touchant, vraiment. On est une rédaction très solidaire et ça a reboosté le moral des troupes parce qu'on travaille dans des conditions vraiment pas évidentes avec des salaires qui ont fortement diminué à cause de la crise financière et la dévaluation de la livre libanaise. Donc pour nous, avoir une telle reconnaissance, ça veut dire qu'on est vraiment sur la bonne voie, qu'on est en train de faire du bon travail, je l'espère. Et ça nous a confortés dans l'idée de rester. Parce qu'à un moment, on avait des doutes. Beaucoup ont une double nationalité, soit française, soit européenne. Et on songeait à partir. Parce que travailler et vivre dans ce pays, c'est épuisant. C'est épuisant. Et quand vous êtes inondé par les informations, les mauvaises informations toute la journée, c'est vraiment compliqué. Je ne peux pas rentrer dans mon confort en France et faire comme si de rien ne s'était passé.
L'Orient le Jour, on a l'impression aussi, est en train de poursuivre sa transition numérique à différents projets. Alors déjà, c'est passé aussi par avoir des articles traduits en anglais ou écrits en anglais.
Oui, on a lancé L'Orient Today il y a quelques temps pour attirer des lecteurs anglophones parce que suite à la disparition d'un grand titre libanais anglophone qui s'appelait le Daily Star. Et pour l'instant, bon, ça marche tout doucement, on vient de le lancer et on espère que ça va nous attirer davantage d'abonnés. Mais bon, pour l'instant, L'Orient le Jour reste quand même la référence francophone.
Alors L'Orient le Jour, on peut évidemment s'abonner au journal papier. On peut aussi, pour L'Orient le Jour, avoir un abonnement pur numérique.
Oui, tout à fait. On fait des offres très régulièrement. pour essayer d'attirer de nouveaux abonnés. Et on essaye aussi de couvrir l'actualité à travers des grands angles, des grandes enquêtes que vous ne trouverez pas ailleurs, notamment sur les raisons de ces explosions du port, de grandes enquêtes également financières, par exemple sur la Banque Centrale Libanaise. Et ça, peu de médias parviennent à couvrir ces aspects-là parce qu'ils sont menottés, il y a toujours des connexions, des connivences avec des banquiers, des politiciens, alors que nous, nous arrivons à mener ces enquêtes-là.
Lorient Lejour travaille également à la production de podcasts. On sait que le podcast, c'est tendance, qu'il y a de plus en plus de podcasts dans le monde arabe. Qu'est-ce que Lorient Lejour veut proposer en podcast ?
Alors, on est très en retard à ce niveau-là. On voulait s'y mettre depuis bien longtemps, mais nous n'avions pas les moyens de le faire. Donc là, nous allons lancer notre podcast en vue des élections législatives et donner la parole à des candidats aux élections. Mais nous avons beaucoup d'autres podcasts que nous aimerions lancer, notamment peut-être des discussions avec des intellectuels libanais ou avec des historiens qui pourraient nous raconter cette guerre libanaise qui malheureusement est trop souvent occultée.
Le Liban la cherche à se tourner vers le futur. Est-ce qu'il y a des initiatives médias que vous avez repérées actuellement au Liban que vous trouvez dignes d'intérêt ?
Oui, il y a des médias qui ont fait leur preuve, qui sont beaucoup très présents sur les réseaux sociaux. Je pense à Dalaj, que vous avez pu voir hier lors du panel. Ils font un travail formidable. Je pense à un autre titre aussi, qui est Mégaphone, qui est très présent sur les réseaux sociaux. Donc il y a des initiatives médiatiques intéressantes. Malheureusement, est-ce qu'elles pourront continuer leur travail en sachant qu'elles dépendent essentiellement de dons et d'aides d'ONG ou de l'Union européenne ? Ça, je crains un petit peu.
Vous êtes attaché, très fortement attaché à Beyrouth. Pour vous, votre futur journalistique, il se passe au Liban.
Je suis très attachée en effet, mais je ne sais pas si mon futur, si je resterai toute ma vie au Liban, c'est fatigant. Étant donné que je suis française, c'est vrai que j'ai une famille de petites filles, je pense souvent à rentrer en France. Mais pour l'instant, je pense qu'il est important que je sois là pour être des témoins de ce qui se passe. Parce que je pense que la crise va s'éterniser.
Merci beaucoup, Caroline Hayek.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes grand reporter à Lorient le Jour, au Liban. À bientôt dans l'Atelier des médias.
Merci, à bientôt.
On poursuivra la semaine prochaine la diffusion d'entretiens réalisés aux deuxièmes assises internationales du journalisme de Tunis. Comme chaque semaine, on termine cette émission avec Mondo Blog Audio, qui fait entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Parlons un peu de pollution plastique. Chaque année, des millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans. Le Pacifique et les mers d'Asie sont particulièrement touchés. Adrien Coron, Mondo blogueur français qui a longtemps vécu en Asie du Sud-Est, en a été le témoin privilégié.
On le sait, le plastique, ça pollue. C'est fabriqué à partir de pétrole, ça intoxique les humains, ça enlaidit les paysages, ça menace la vie marine dans les océans. Et ce qu'on sait moins, c'est que malgré tous nos efforts, de plus en plus de plastique se répand dans la nature. C'est devenu un véritable fléau mondial. Le plastique, il est partout. On en retrouve dans tous les océans, dans toutes les mers de la planète. Et selon la fondation Ellen MacArthur, d'ici 2050, le poids du plastique présent dans les océans, il devrait être au moins équivalent au poids du poisson. Et alors, une très grande partie de cette pollution vient d'Asie. Sur le podium, d'abord la Chine, suivie de l'Indonésie, des Philippines, de la Thaïlande et du Vietnam. D'après le Conservatoire des océans, ces 5 pays seraient responsables à eux seuls de plus de la moitié de la production de déchets plastiques du monde. Pourquoi ? Parce que c'est les pays qui ont la plus forte croissance en Asie. Leur économie est basée sur la production de plastique, avec comme corollaire son rejet dans la nature, parce qu'il n'y a pas de système de collecte et de recyclage performant. En fait, le problème du plastique, c'est aussi son énorme atout, c'est qu'il coûte très peu cher. Et ça a contribué à sa fabrication et à son utilisation excessive dans le monde entier, y compris dans les sociétés asiatiques. On s'est vite habitué à la street food, au tout jetable, avec des boîtes en polystyrène, des couverts en plastique, accompagnés de la petite bouteille de Coca-Cola, qui est, je dis en passant, l'entreprise qui génère le plus de déchets plastiques au monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que tous ces produits jetables se retrouvent dans la mer ? On peut faire des choix responsables. Abandonner tous les plastiques à usage unique, en adoptant des alternatives, en privilégiant les produits recyclables. Par exemple, arrêter d'acheter des produits de consommation suremballés. Troquer votre sac plastique à la caisse du supermarché contre un cabas réutilisable. Et surtout, si c'est possible, troquer les bouteilles en plastique contre une gourde. Tout ça, ça vous évitera de faire grossir le continent plastique. Vous connaissez le continent plastique ? En fait, c'est une énorme masse de déchets plastiques qui s'étend en plein Pacifique. Un continent flottant qui occupe 3,5 millions de kilomètres carrés. Ça équivaut à 6 fois la taille de la France. Il est à mi-chemin entre Hawaï et la Californie, sur un point de rencontre entre plusieurs courants océaniques, et c'est notre 7e continent. C'est la triste conséquence de notre société de consommation du tout plastique. Alors s'il vous plaît, changez vos habitudes et dites non au plastique.
Mondoblog.org.
C'était le mondoblogueur Adrien Coron. Pour lire ses billets et suivre ses pérégrinations en Thaïlande, au Cambodge ou à Taïwan, rendez-vous sur son blog papierdasie.mondoblog.org. C'est la fin de cette émission réalisée par Stéphane Desfossés et Simon Decreuse. Mondoblog Audio était piloté cette semaine par Camille Deloche. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Podcast Addict, Spotify, Apple Podcast ou encore l'appli Radio France. Mettez des étoiles au podcast de l'Atelier des médias sur toutes les plateformes où vous le pouvez et postez des commentaires pour que ce programme ait davantage d'exposition. Les algorithmes, c'est ça aussi. Pour me contacter, un message via Twitter ou un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.